Un lourd bilan après l'accident de la route survenu à Wailou en début de semaine. Deux jeunes d'une vingtaine d'années perdent la vie. Un troisième passager a été grièvement blessé. 70,6% des réussites au baccalauréat. À l'issue de la première session d'épreuve avant les rattrapages, les candidats avaient rendez-vous pour découvrir les résultats du bac ce mercredi matin. Vers la modernisation des procédures administratives pour les entreprises. Un chantier pour le gouvernement qui a présenté aujourd'hui un projet de loi du pays avec plusieurs mesures phares. Des renforts de pompiers venus de métropole, 40 membres de la Sécurité civile nationale arrivent dès demain pour prêter main forte aux soldats du feu sur le territoire. Une journée d'information sur la maladie rénale chronique. La clinique Queen Doumania accueillait le grand public aujourd'hui pour aider à mieux comprendre, prévenir et agir. Dans le Pacifique, une décision inédite. En Australie, l'accès aux réseaux sociaux est interdit pour les moins de 16 ans depuis aujourd'hui. Et le sport du tennis avec le challenger de Nouméa qui se prépare pour cette fin d'année. Et les fans de la petite balle jaune apprécieront le retour de l'Open BNC Catherine Bonnet au club du Receiving. Pierre Hugerbert sera la tête d'affiche. Bonsoir et soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tous, savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Un drame de la route a fait deux morts à Wailou ce lundi. Entre 19h et 20h, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule pour des raisons encore indéterminées dans le secteur du lycée d'Oneva. Le conducteur et le passager avant, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, sont décédés sur place. Une troisième personne âgée de 20 ans qui était à l'arrière du véhicule a été grièvement blessée. L'homme a été évacué au Medipôle. Son pronostic vital est engagé. Un accident qui porte à 33 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. Une grande émotion pour des centaines de jeunes partout sur le territoire ce mercredi. Le rendez-vous était donné à 10h pour l'affichage des résultats de la première session du baccalauréat. Comme le veut la tradition, de nombreux candidats avaient décidé d'aller devant leurs établissements. Même si les résultats sont aussi disponibles sur Internet, beaucoup ne manqueraient pour rien au monde cette séance de cris, d'éclats de rire, de larmes aussi. Et pour la majorité, le sentiment qu'une page de leur vie se tourne avec la fin de leur scolarité dans le cycle le secondaire. Illustration au lycée La Pérouse.
Franchement, je suis super content parce que j'ai eu mention très bien. C'était un peu mon plus grand objectif. J'ai bossé dur toute l'année.
Moi, j'ai eu mon bac et c'est déjà bien, c'est tout. Et là, ce soir, ça va manger du riz, tranquille, là.
Bah, ça fait plaisir. Ça fait des années qu'on travaille, qu'on nous répète le bac tous les ans. Donc, enfin, là, on l'a et on est libéré, on peut avancer, quoi.
J'ai eu la mention très bien. Moi aussi. Moi, je suis bien choqué. On s'y attendait pas.
Bien sûr qu'on l'a. Moi, j'étais pas très confiant, mais au final, j'ai eu du premier tour. Je suis bien content.
Moi, j'ai eu la mention très bien avec la félicitation du jury, donc c'est cool.
Ça fait quoi, ce bac en poche? Ça y est, c'est quand même une page de la vie qui se tourne. Quand on termine le lycée, ça fait quoi?
C'est une libération en fait. C'était beaucoup de stress, n'empêche. Et là, on est content que ce soit fini. Et oui, après, c'est dur de penser tout de suite à l'après parce qu'on est encore dans les vacances, dans le fait qu'on vient de recevoir le bac. Mais ça va permettre de marquer un passage, quoi. Et c'est agréable.
C'est une grande étape de notre vie qui est terminée.
C'est juste une libération. Je peux rentrer chez moi, bien manger, voilà.
Du riz.
On va manger du riz.
Ben. Tout le monde a cette expression, manger du riz, ça veut dire quoi?
C'est une référence par Internet. Enfin, c'est sur Internet qu'il y avait une vidéo qui a fait le tour de la France, en tout cas. Et ben voilà, c'est par rapport à un jeune, je crois, qui avait son bac, et il a fallu manger du riz, tout ça.
Ça fait du bien, ça fait du bien. Moi, c'est fini, maintenant, faut se préparer à l'université.
Voilà, et pour d'autres, il y avait une petite déception. Il faudra aller au rattrapage. Frustration également lorsqu'on vise une mention spécifique.
Ça va, c'était bien. Mais bon, je pensais... Je passe au second groupe, donc voilà.
Confiante pour la suite?
Oui, on l'aura.
Ça va. Je passe le second groupe, mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Au moins, je sais que j'ai mon bac quand même si je passe le second groupe.
Moi, je suis vraiment déçue parce que je voulais la mention très bien. Mais du coup, j'ai eu mention bien. Voilà.
Une grande émotion donc également pour les équipes pédagogiques qui ont passé de plusieurs années avec ces jeunes. Écoutez le proviseur du lycée La Pérouse, Gilles Kéoué.
Je crois qu'après une année scolaire comme celle-ci, c'est le soulagement pour beaucoup et on entend quelques cris là de joie. Et on a plutôt de bons résultats, donc on est en tout cas très 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 content. Toujours beaucoup d'émotions parce qu'on se rend compte que les jeunes ont travaillé, qu'ils sont là, ils sont dans l'attente de résultats. Et puis finalement, pour ceux qui méritent, eh bien, ils arrivent au bout. Je veux dire, le baccalauréat, c'est une porte qui s'ouvre, donc de nouvelles perspectives. Donc vous voyez la joie qui se lit sur les visages quand même, ça, Et chaque année, ben, on partage aussi cette joie des familles, hein, de nos jeunes, d'arriver au bout avec le baccalauréat en poche, en tout cas.
Et certains n'ont donc pas tout à fait terminé. Les épreuves de rattrapage vont débuter prochainement pour ceux qui ne sont pas encore bacheliers. Les épreuves qui se poursuivront jusqu'au 16 décembre. En attendant, le vice-rectorat a déjà publié les chiffres concernant cette première session, Jean-François Baudin.
Avec déjà un chiffre à retenir, 70,6%, c'est le taux de réussite au baccalauréat avant les épreuves de rattrapage qui auront lieu dans quelques jours. Sur les 3091 candidats qui ont passé le baccalauréat cette année, 2181 l'ont obtenu dès la première session, un taux supérieur de 1,7% par rapport à la session 2023. Par ailleurs, près de 1240 bacheliers ont obtenu une mention, c'est presque 57% d'entre eux, un chiffre en hausse par rapport à la session 2023. Dans le détail, pour le baccalauréat général, le taux d'admission à l'issue du premier groupe d'épreuves s'élève à 81,6%. Il est en baisse de 3,3 points par rapport à la session 2023. Pour le baccalauréat technologique, le taux d'admis à l'issue du premier groupe d'épreuves est de 64,9%. Il est supérieur de 9 points par rapport à la session 2023. Dans la voie professionnelle, 64,1% des candidats est admis, soit un taux de supérieur de 3,1 points par rapport à 2023. Il y avait aussi d'autres diplômes de fin d'année, notamment le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Sur les 651 candidats présents à l'examen, 443 ont été admis, ce qui est un taux de réussite de 68%. Enfin, le BTS, le brevet de technicien supérieur, 751 candidats se sont présentés à l'examen, 471 ont été admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, ce qui correspond à un taux d'admission de 62,7%, quasiment à l'identique par rapport à 2023.
Et j'ajoute que demain et après-demain, ce sont les plus jeunes qui plancheront, les élèves de 3e qui passeront le brevet des collèges.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraille, c'est le 99.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite moderniser les relations entre l'administration et les entreprises. Plusieurs mesures ont été présentées lors du point presse faisant suite à la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, Charlotte Coulson.
Plus de confiance, plus de transparence et une volonté de modernisation pour les entreprises. C'est ce qui ressort de ce projet de loi du pays présenté aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie souhaite adapter son cadre juridique pour le rendre plus simple et cela passe par différentes mesures. Que détaille Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement.
Restaurer la confiance, mettre le droit à l'erreur sur l'ensemble des codes de la Nouvelle-Calédonie, que le silence de l'administration vaut accord, mais aussi d'avoir un registre unique des entreprises qui nous permettra de passer les créations d'entreprises de à peu près 3 mois aujourd'hui à une journée, de faire les différentes transformations en ligne et supprimer tout un tas d'actes administratifs qui ne servent à rien et qui pèsent sur l'économie et la capacité d'entreprendre des entrepreneurs calédoniens. L'objectif, c'est simplifier, 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 et cette simplification doit emmener de l'agilité dans l'économie et donc de la croissance. On a vu partout où il y a eu des mesures de simplification, il y a eu de la croissance économique supplémentaire.
On retiendra que cette mesure de silence valant accord serait applicable après 2 mois dans les domaines du commerce, de la fiscalité et du travail. Concernant le registre unique, toutes les entreprises de Calédonie devront s'y immatriculer. Il n'y aura donc plus de numéro de RIDET ou encore de registre du commerce et des sociétés. Les sociétés s'identifieront sur un guichet unique numérique des entreprises. Au cours de cette séance du gouvernement, il a également été question de la législation concernant la vente et la consommation de cava. Un projet de loi du pays était déjà passé en première lecture et a été approuvé par le Conseil d'État. Il sera donc examiné prochainement au Congrès. L'objectif est de faire évoluer la législation qui encadre l'activité des nakamal, actuellement considérés comme des salons de thé.
C'est pas des salons de thé, il y a des nakamals qui sont très bien, mais il y a des nakamals aujourd'hui où il y a du trafic de drogue à l'intérieur, donc il était urgent de pouvoir réglementer. L'idée, c'est de les considérer exactement comme l'établissement qui vend de l'alcool, donc à la fois avec une licence, avec des réglementations, des contraintes, et également un numerus clausus qui pourrait être appliqué par les provinces et par les communes, et la possibilité de ne pas qu'ils s'installent au plus près d'établissements scolaires ou de santé. Donc c'est une vraie réglementation qui est attendue depuis maintenant des années, notamment par les maires.
Le porte-parole du gouvernement a également rappelé lors de ce point presse que le débat d'orientation budgétaire sera présenté le 22 décembre au Congrès et le budget de la Nouvelle-Calédonie examiné le 30 décembre.
Lors de ce point presse, Christopher Gigès est également revenu sur le courrier adressé aux élus calédoniens par Sébastien Lecornu, dans lequel il détaille le plan de relance pour la Nouvelle-Calédonie. Un plan de 264 milliards de francs qui doit s'étaler sur 5 ans. À la suite de ce courrier, le président du gouvernement, Alcide Ponga, a souhaité réunir les responsables d'instituts discussion, parlementaire et chef de groupe politique pour envoyer un retour au Premier ministre.
On a souhaité au niveau du gouvernement réunir l'ensemble des formations politiques, des institutions pour partager une réponse commune au courrier du Premier ministre. Je ne sais pas si on arrivera, mais en tout cas la volonté du gouvernement est là de pouvoir répondre ensemble au plan de relance proposé par Sébastien Lecornu, qui est volontariste, mais qui appelle quand même certaines remarques de notre part sur le montant notamment des prêts qui seraient transformés en subventions et des ajustements et des éclaircissements sur les mesures qui sont proposées. Mais en tout cas, on remercie l'État d'engager cette démarche et notamment le Premier ministre.
Ce courrier doit donc permettre d'obtenir des éclaircissements de la part du Premier ministre, notamment sur une phrase de Sébastien Lecornu dans sa lettre qui annonce qu'à l'issue du plan de relance, dans 5 ans, l'État ne prendra plus à sa charge que le financement de ses propres compétences. Une dernière réunion de concertation entre les partenaires locaux doit se tenir vendredi matin. Ce plan de relance annoncé par le Premier ministre sera le thème demain des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra la présidente du MEDEF, Mimsy Delay, et la vice-présidente de la FINC, Marie-Amélie Molia, Jean-Marc Burette, le secrétaire général de l'USOINC, et le vice-président de la COGETRA, Tony Dupré. Après l'avis favorable sur le projet de loi organisant la consultation des Calédoniens émis lundi par le Congrès, les groupes politiques ont, comme convenu, rédigé leur opinion pour expliquer leur vote. Des opinions qui vont être transmises aux commissaires et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par la présidente du Congrès. En marge de cet avis qui traduit les divisions au sein du Congrès, il est envisagé une démarche commune des groupes politiques pour demander la constitution d'une commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale Sénat qui reprenne l'initiative et permettent peut-être une reprise des discussions pour rechercher un accord consensuel. On parle aussi désormais de solliciter directement le Premier ministre ou le Président de la République pour qu'il tente de débloquer la situation. Dans l'actualité de ce mercredi soir également, la campagne pour les élections municipales au Mont d'Or qui débute cet après-midi. Nina Julier, qui tirera la liste constituée par différents mouvements loyalistes hors rassemblement et dont le slogan est « Il est temps », présenter les résultats d'une consultation des Mont-Doriens. Lionel Sabot.
Au total, ce sont 350 personnes qui ont répondu à ce questionnaire dont l'objectif était, selon l'équipe de campagne de Nina Julier, d'écouter, de comprendre les difficultés des populations de la commune et de recueillir des propositions concrètes venant directement des Mont-Doriens. Au total, ce sont donc quelques 175 propositions citoyennes qui ont été formulées, des propositions que Nina Julier et son équipe déclinent en trois grandes priorités.
La priorité, c'est pas une surprise, c'est d'abord la sécurité. Les gens veulent qu'on les protège. Et c'est bien normal après tout ce qui s'est passé. Ils veulent une mairie qui sanctionne, une mairie qui ait le courage de faire respecter les règles. Ils veulent également de l'attractivité, de l'emploi pour faire vivre dignement leur famille. Et enfin, ils veulent, parce que leur fierté a été abîmée ces derniers temps, qu'on ravive cette fierté.
Comment est-ce que la mairie du Mont d'Or peut s'investir pour trouver des solutions en termes de sécurité, puisqu'on sait que c'est une compétence quand même de l'État?
Elle dispose d'une police municipale dont les effectifs peuvent être renforcés, dont les plages horaires également de travail peuvent être étendues pour être davantage sur le terrain. Mais elle a également ce qu'on appelle des aides à la population. Et il faut aujourd'hui que face à ces droits que la population a, il y ait derrière des devoirs. Et elle peut par ce biais-là faire respecter les devoirs et agir sur les mauvais comportements et notamment la délinquance des mineurs qui est très présente au sein de la commune.
Cet après-midi, lors d'une conférence de presse de présentation de cette consultation citoyenne, nous avons demandé à Nina Julier s'il n'était pas compliqué de construire un programme électoral dans un contexte budgétaire extrêmement contraint pour les différentes collectivités.
À chaque fois que je suis allée sur le terrain, j'ai dit la vérité. J'ai dit dans quel état étaient nos financements. J'ai dit ce qu'on pourrait faire et ce qu'on ne pourrait pas faire. On m'a demandé par exemple, est-ce que vous comptez supprimer la contribution foncière? J'ai dit non, ce n'est pas possible parce que sinon c'est la mairie qui s'écroule puisque c'est une grande partie de ses financements. Donc je crois que les gens attendent ça. De la vérité dans le discours, ça demande pas d'argent, ça demande juste un changement de comportement et un changement de méthode.
Et j'ajoute que Nina Julier et ses colistiers présenteront un programme complet pour les élections municipales du mois de mars dans le courant du mois de janvier.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, êtes-vous favorable à l'organisation de la consultation citoyenne sur l'accord de Bougival le 15 mars 2026, c'est-à-dire le même jour que le premier tour des élections municipales? Si vous êtes favorable à cette date, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, à l'unanimité, les auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que Juliette Collet, qui a fait un superbe parcours en étant élue première dauphine, aurait mérité d'être élue Miss France 2026. Un rendez-vous d'antenne. C'est samedi le 13 décembre que la ville de Nouméa lance sa féerie de Noël qui se poursuivra jusqu'au 1er janvier. La municipalité propose tout un programme d'animation qui sera ponctué par l'arrivée du Père Noël le 24 décembre et par un grand spectacle son et lumière pour accueillir l'année 2026. Un programme festif que le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, viendra nous présenter demain. Elle sera notre invitée du matin à 7h30. Il est 18h, une page de publicité dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité. Et en Australie, les réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans, une décision qui fait déjà réagir. Les détails dans un instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Info soir, Michael Juneski.
C'est une première mondiale, l'entrée en vigueur en Australie d'une interdiction que de nombreux pays du monde vont scruter de près depuis ce matin. En effet, l'accès aux réseaux sociaux est interdit pour les moins de 16 ans. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré « Il s'agit pour nos familles de reprendre le contrôle ». Une décision qui fait réagir, à commencer par les jeunes de métropole. Le reportage de Laura Legault pour Europe 1.
Non, s'il vous plaît, j'ai besoin des réseaux. J'en ai besoin pour vivre. Salma, 13 ans, est choquée face à une possible interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, comme le jeune Anis qui passe plusieurs heures chaque jour sur ces plateformes.
C'est un moyen de se détendre quand tu viens de finir une journée de 8h-17h.
Toi, tu pourrais vivre sans les réseaux sociaux?
Enlever tous? Non.
En Australie, 9 réseaux sociaux sont désormais interdits, y compris YouTube, ce qui laisse perplexe Daniel et Wassim.
Il y en a certains, moins de 15 ans, c'est un peu trop quand même.
Je pense que YouTube, ça devrait pas être interdit parce que c'est pas un réseau social. C'est comme si on regarde dès la télé, mais sur Internet.
Pourtant, les collégiens sont conscients des dangers. Pour Salma, il faut laisser les ados accéder à ces plateformes, mais les empêcher de publier du contenu.
Pour que quelqu'un poste sur les réseaux, moi, je trouve qu'il faudrait mettre un âge. Il peut y avoir des répercussions. Ça peut finir en cyberharcèlement.
Déjà aujourd'hui, sur certains sites, il faut déclarer avoir au moins 13 ans pour s'inscrire. Une règle facile à contourner, selon Wassim.
Ça m'est déjà arrivé de mentir sur mon âge. Ils mettent des limites d'âge, mais personne ne les respecte.
Et tous se posent cette question. En cas d'interdiction, comment serait contrôlé l'âge des utilisateurs?
Laura Legault pour Europe 1. Concernant cette législation en Australie, les réseaux qui ne se plieraient pas à cette règle s'exposent à une amende de 33 millions de dollars. Le patron du réseau X, ex-Twitter, Elon Musk, a indiqué que son groupe se conformera à l'interdiction pionnière des réseaux sociaux aux moins de 16 ans en Australie. Retour sur le territoire. Les incendies de ces derniers jours à l'île des Pins et à Koumac, ils sont désormais fixés, mais la situation reste fragile en raison des conditions météo, c'est-à-dire un temps sec et venteux. Et le plan hors sec de niveau 2 est toujours actif, Jean-François Baudin.
À Koumac, l'incendie sur le secteur de la crinière est fixé. Une équipe au sol de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers de Koumac sont toutefois déployés autour du dernier point chaud sensible identifié. La situation reste un peu plus compliquée sur le secteur de Chagrin, où 4 points chaud sensible à l'origine du départ du feu nécessite toujours l'intervention de l'hélicoptère bombardier d'eau. Un feu difficile d'accès pour lequel une unité de la sécurité civile a été déposée par hélicoptère auprès des points chauds. À Koumac, 115 hectares ont brûlé. Le bilan est beaucoup plus lourd à l'île des Pins puisque ce sont 1900 hectares qui ont déjà brûlé depuis le 1er décembre. 2 points chauds ont été identifiés mais aussi une reprise du feu constatée à proximité de la tribu de Tourte. Un hélicoptère bombardier d'eau reste engagé pour aider le travail des équipes de la sécurité civile et la soixantaine de sauveteurs bénévoles bénévoles qui sont toujours sur place. Les incendies de Koumac et de l'île des Pins ont donc mobilisé les équipes et continuent de les mobiliser de façon intensive. Les pompiers ont été mis à rude épreuve durant cette semaine, mais ils vont bénéficier du soutien de pompiers de la sécurité civile nationale. Des renforts arrivent demain, nous a annoncé le capitaine Rossignol, officier de communication à la DSCGR. Il était ce matin notre invité à 7h30.
Nos équipes sont très éprouvées et fatiguées. C'est pour ça que demain matin arrive à 6h30 40 pompiers de la Sécurité civile nationale. Le président du gouvernement fait une demande auprès du haut-commissaire pour venir justement aider les pompiers locaux qui sont quand même très éreintés après les feux de l'île des Pins à travailler 20 heures par jour. C'est assez habituel, c'est les FORMIS, c'est les unités d'intervention du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité civile. Ils viennent régulièrement, ils sont venus en janvier l'année dernière sur un feu qu'on avait eu dans le sud de la Nouvelle-Calédonie où pareil, nos équipes et nos moyens étaient à bout de souffle, donc ça nous a donné un peu d'oxygène. C'est des unités qui sont spécialisées dans les risques environnementaux et technologiques et c'est la force de frappe française. Ils vont un peu partout dans le monde, que ce soit pour les feux de forêt, les séismes. Les équipes qui viennent sont vraiment spécialisées dans le feu de forêt avec des techniques qui s'appellent le DIH, d'intervention héliportée. Donc c'est des gens qui sont aguerris à ce genre de mission. Ouais.
Voilà, 40 pompiers qui arrivent donc en renfort et qui seront opérationnels à leur arrivée demain matin à 6h30. Une interview que vous pouvez retrouver du capitaine Rossignol sur notre site rrb.nc.
Santé, une journée pour comprendre, prévenir et agir. La maladie rénale chronique était au cœur de l'événement organisé ce mercredi à la clinique Quindoumanien, Léo Fichot.
Oui, une journée importante puisqu'on le sait, environ 700 personnes souffrent d'une insuffisance rénale chronique terminale sur le territoire. De 8h jusqu'à 16h, aujourd'hui, les équipes médicales étaient présentes dans le hall principal de la clinique. Vous pouviez bénéficier de conseils, réaliser une série de tests gratuits. Un événement qui était organisé par la clinique en partenariat avec l'unité de néphrologie de Nouvelle-Calédonie et le réseau de l'insuffisance rénale. Delphine Butita est infirmière coordinatrice du RESIR.
C'est du dépistage et de l'information sur la maladie rénale. Donc ça passe par les facteurs de risque et c'est mis en place sous forme de consultation infirmière. Donc vous avez la possibilité de rencontrer l'infirmière qui va vous poser une liste de questions sur les facteurs de risque, qui va prendre la glycémie, le sucre dans le sang, qui va prendre une tension et qui ira plus loin dans les examens si besoin et qui vous orientera éventuellement vers le médecin. Et tout ça avec plein de conseils pour garder ses reins en bonne santé. Ensuite, on a deux stands. Donc, on a un stand qui parle de la greffe, du don d'organes sur le territoire. Et ensuite, on a le stand des diététiciennes. Donc, on a les deux diététiciennes spécialisées dans le domaine de la néphrologie qui, là, vont donner des conseils, toujours pour garder les reins en bonne santé, parce que la base, c'est l'alimentation.
De nombreuses personnes sont venues à la rencontre des professionnels de santé dès l'ouverture et jusqu'à la fermeture des portes de cette journée. C'est le cas d'Ariane. Elle a profité d'une visite à la clinique pour se faire dépister.
J'étais passée pour emmener ma maman qui faisait un examen. Je suis tombée sur les infirmières qui faisaient des dépistages. Et du coup, j'en ai profité pour tout vérifier. Et puis, apparemment, tout va bien. Je trouve que c'est très bien parce qu'on ne pense pas toujours aller voir notre médecin. Parfois, on a des petits pépins, on traîne un peu. Et puis là, c'était l'occasion de le faire sans trop d'efforts. J'ai discuté avec une diététicienne qui m'a donné beaucoup de conseils par rapport à mon âge. Et puis j'en ai profité pour faire des tests, prendre ma tension, vérifier mon taux de protéines et puis mon diabète. Et on est très bien accueillis et avec le sourire et tout s'est bien passé.
Une journée de dépistage de la maladie rénale chronique qui était gratuite et ouverte à tous dans le hall principal de la clinique Quindoumanien.
En bref, le comité de coordination de GEUS s'exprime face aux problèmes sur le trafic aérien domestique qu'il estime récurrent. Selon lui, depuis plus de 5 mois, les usagers subissent des annulations et des retards répétés sur les lignes d'Air Calédonie pour des motifs techniques, opérationnels et de ressources humaines. Le comité de coordination de GEUS demande des mesures immédiates et contraignantes telles que des sanctions et des changements d'équipe ou encore un dispositif d'indemnisation pour les usagers.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Un cadeau de Noël avant l'heure pour l'initiative Kiwa. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande a consolidé son engagement en versant 5 millions de dollars néo-zélandais, soit près de 300 millions de nos francs. Une annonce faite en début de semaine à l'occasion de la 11e réunion du comité d'orientation stratégique qui s'est tenue à Nouméa. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique.
On se félicite du succès de Kiwa depuis 5 ans de fonctionnement. Et donc, il faut que, en plus de l'augmentation de la contribution néo-zélandaise dont on se félicite, on a besoin d'une sorte de surge politique. Le défi maintenant, c'est de faire de sorte que Kiwa soit vraiment opérationnel, tous les projets soient lisibles et visibles politiquement. Ce dont on a besoin, c'est que les autorités de tous les États, des bénéficiaires des projets Kiwa, connaissent Kiwa, le comprennent et se l'approprient.
Pour rappel, l'initiative Kiwa est un programme régional créé en 2020 qui finance des actions de protection et de restauration de la biodiversité. La petite Soline Galiana de Dimbéa a brillé au concours Éco d'Outre-mer. Elle a tout simplement remporté le premier prix de ce concours organisé par le ministère de la Culture. La remise des prix avait lieu en présence de Rachida Dati. Il s'agissait donc d'un concours de dessin sur le thème L'Outre-mer, une mosaïque de culture. Soline Galiana a présenté son œuvre au message fédérateur, liée par la mer, unie par la culture. À tout juste 9 ans et demi, elle est élève de CM1 à l'école catholique de Dimbéa-sur-Mer. Elle nous a fait part de sa réaction.
J'étais surprise déjà et j'étais contente. Mon dessin représente une pirogue qui navigue sur l'eau en allant relier chaque culture à chaque outre-mer. Et mon slogan, c'est « Lié par la mer, unie par la culture ». Il fallait faire une mosaïque et un slogan. J'ai fait chaque outre-mer sur les côtés. J'ai fait le drapeau bleu, blanc, rouge en soleil, comme les outre-mer, elles sont reliées par la France. Et du coup, le drapeau bleu, blanc, rouge, il rayonne sur toutes les outre-mer. J'ai dessiné une pirogue parce que en Nouvelle-Calédonie, surtout à l'île des Pins, on utilise beaucoup les pirogues. J'ai dessiné un bonhomme qui chante des instruments de musique parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on fait beaucoup de musique. J'ai dessiné une raie, un poisson et une tortue parce qu'on en voit souvent en Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi dessiné une mosaïque sur ma voile et aussi sur le bonhomme.
Et plus de 400 dessins ont été envoyés cette année pour le concours. Les 7 lauréats ont tous gagné un voyage d'une semaine à Paris.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et voilà, plus de 2 semaines que notre opération Au cœur de Noël est lancée sur RRB. Au cœur de Noël, l'occasion d'apporter ce que vous souhaitez pour donner aux plus démunis. Un geste d'attention, de solidarité qui va permettre aux familles en difficulté d'offrir à leurs enfants des cadeaux pour que Noël soit une fête pour tous. À l'image de Nicole, venue à notre rencontre aujourd'hui en pensant avant tout aux plus petits.
Je suis très heureuse d'apporter des petites choses pour les enfants. J'ai choisi des petits de 3-4 ans, on va dire. J'ai porté un jouet pour un garçon qui aime bien les voitures ou les camions. Et puis un petit ensemble de jeux pour petites filles aussi qui aiment bien assembler, jouer. Voilà.
Et tout ce que vous apporterez sera à distribuer aux familles que suivent nos partenaires, la Croix-Rouge, le Secours catholique et la Société Saint-Vincent-de-Paul avec le concours de la Table ronde française. Il est 18h passé de 12 minutes, une dernière page de publicité avant de voir toute l'actu sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Un beau chapeau cow-boy, une bonne ceinture garantie 10 ans avec vos initiales, c'est seulement au coin du cuir, mon ami. Sac, porte-monnaie, portefeuille et les nouvelles boots tout cuir à seulement 7800 francs. Le coin du cuir, le coin du bonheur.
Comme chaque année, la ville de Nouméa invite tous les Nouméens à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à mettre à jour l'adresse de leur domicile avant le 31 décembre 2025. Dans un premier temps, vérifiez votre inscription sur le site internet www.electeur-nc.fr. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou que vous êtes nouveau résident de la commune, faites les démarches d'inscription auprès du service des élections à l'hôtel de ville. Pour rappel, les jeunes majeurs sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Si vous avez changé de quartier au sein de la commune, signalez ce changement au service des élections à l'hôtel de ville de Nouméa. Votre adresse de domicile détermine le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Retrouvez toutes les informations pratiques et la marche à suivre dès maintenant sur le site www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15. Ces démarches sont nécessaires pour participer aux scrutins organisés en 2026. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025, mais n'attendez pas le dernier moment. Ceci est un message de la ville de Nouméa.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Mickaël Juneski.
Le coup d'envoi des finales du championnat territorial de basket, c'est ce soir. Les messieurs ouvriront le bal, Léo Fichot.
Oui, premier acte entre l'équipe de Rivière-Salée et celle de Dumbéa à la salle Omnisport de Lanzvata. Les joueurs de Dumbéa qui sont tenants du titre, qui font encore une fois figure de favoris. Ils reviennent d'ailleurs de la Coupe du Pacifique où ils ont battu les Tahitiens d'Excelsior pour gagner leur billet pour la Coupe de France. Le premier match de la finale territoriale est prévu ce soir, donc à 20h. Le deuxième match aura lieu samedi. Ce sera aussi l'occasion de voir le premier duel entre les filles du Mondor Basket Club et celles de Rivière-Salée. Le match 2 des féminines et le match d'appui des messieurs, en cas d'égalité bien évidemment, est programmé le lundi 15 décembre. Le match d'appui des femmes est planifié le mercredi 17 décembre.
Le passage à une nouvelle année en Calédonie se fait toujours avec du tennis. Le Challenger de Nouméa, 21e édition, promet encore un beau spectacle et cette année, la fête commencera avec le retour du BNC Catherine Bonnet.
Après 5 années d'absence, le tournoi d'exhibition qui se déroule au tennis club du Receiving fait effectivement son grand retour. Durant 4 soirée, 8 joueurs professionnels en préparation pour le BNC Tennis Open et 2 jeunes talents calédoniens vont se défier. Des soirées que le public mais aussi les joueurs apprécient. Écoutez Thomas Schwartz, il est le directeur adjoint du tournoi.
C'est quelque chose qui permet en fait aux joueurs plutôt français en l'occurrence cette année de venir se mettre dans l'ambiance calédonienne, se préparer et justement s'approprier le public calédonien. C'est une chose qui leur tient à cœur de plus en plus. On adore notre mode de vie et j'ai envie de dire eux aussi, et ce qui leur permet d'être je dirais plus détendus, plus en forme, plus prêts encore une fois et encore plus proches des calédoniens. Donc c'est quelque chose qu'on attend beaucoup et dans ce cadre-là, ils sont beaucoup plus accessibles. On est sur un tournoi avec moins d'enjeux et forcément moins de pression. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus détendu, beaucoup plus cool. Et pour entrer sur la deuxième semaine, le BNC Tennis Open, qui a la vraie pression. Mais forcément, s'ils sont venus s'entraîner, se préparer, ils sont beaucoup plus d'attaque.
Et cette année, le plateau de ce BNC Catherine Bonnet a de quoi faire rêver avec un régional bien connu sur le territoire, de nombreux jeunes Français, mais aussi un des meilleurs joueurs de double tricolore.
On a Pierre Garbert qui est monté top 36 mondial et qui a gagné tous les grands chelems en double. Donc c'est un peu lui, notre tête d'affiche sur les deux événements. On a Dan Aden, un peu moins connu. On a Clément Tabur. On a Titouan Droguet qui revient, forcément Colin Sinclair, et on va quand même parler de nos joueurs locaux, Jalan Salin et Raymana Courte qui vont être là pour les affronter. On oublie en fait un joueur calédonien, Maxime Chazal, qui sera là aussi. Donc face à eux, nos jeunes pépites, j'ai envie de dire, qui vont montrer leur talent à nouveau.
Rendez-vous du 28 décembre au 2 janvier, ce sera au TC Receiving pour le tournoi exhibition BNC Catherine Bonnet. Il sert, vous l'aurez compris, de préparation au BNC Tennis Open, le Challenger de Nouméa, qui lui aura lieu du 4 au 10 janvier.
Il est 18h passé de 17 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo avec vous, Pierre, bonsoir.
Bonsoir. Cette nuit, des nuages remonteront vers l'île des Pins et la pointe sud, apportant de rares averses. Sur la pointe nord, quelques nuages inoffensifs s'attarderont encore, tandis que le reste du territoire profitera d'un ciel largement étoilé. La lisée de sud-est faiblira au fil des heures pour s'établir entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales seront fraîches pour la saison, variant de 19 à 24 degrés et localement entre 14 et 18 degrés dans l'intérieur des terres et aux îles. Demain matin, des averses remonteront en matinée vers la pointe sud, alors que le soleil dominera ailleurs, malgré quelques paquets nuageux persistants du côté de la pointe nord et de Belle Epe. La lisée de sud-est s'établira autour de 15 nœuds sur la côte ouest et entre 10 et 15 nœuds sur le reste du territoire. Et côté marée, la mer sera basse tout à l'heure vers 18h34, remontera pour atteindre la pleine mer cette nuit autour de 23h55, avant de redescendre demain matin avec une basse mer prévue vers 6h04.
Merci beaucoup Pierre pour la météo, la technique. 18h passées de 18 minutes.